Deutsche Welle, Carrefour Europe.
Bienvenue à tous. Un été pas comme les autres s'achève. Il aura été marqué par la tension extrême des marchés financiers vis-à-vis de l'Europe, une Union européenne qui ne veut pas prendre le chemin des États-Unis d'Europe, mais dont les gouvernants sont à la peine pour trouver des solutions économiques viables. Nous entendrons à ce sujet un eurodéputé allemand, membre du Parti des Verts. Il nous expliquera pourquoi la chancelière Angela Merkel se heurte à tant de réticences dans son propre camp pour renforcer les mécanismes de solidarité européenne. Nous parlerons aussi du travail de mémoire. L'Espagne n'en a pas tout à fait fini avec le franquisme. Témoin la publication du dictionnaire biographique de l'Académie royale d'histoire qui a été stoppé sine die. Avant de plonger dans le passé, retour à l'actualité, marquée bien sûr par les inquiétudes sur la crise de la zone euro. Et deux pays sont montés au créneau cette semaine, le Portugal et l'Espagne. Le Premier ministre portugais, Pedro Passoselo, de passage à Madrid, a en effet demandé aux pays de la zone euro d'adopter rapidement les mesures approuvées lors du sommet du 21 juillet dernier. Il s'agit notamment d'autoriser le Fonds européen de stabilité financière FESF, d'acheter de la dette publique des pays en difficulté financière. Ces décisions n'ont pas encore été validées par tous les gouvernements et parlements de la zone euro, ce qui, bien sûr, conforte la nervosité des marchés. Une bonne nouvelle, la hausse des rentrées fiscales a permis, selon Madrid, de réduire son déficit public sur les 7 premiers mois de l'année. C'est ce que vient en tout cas d'annoncer le Trésor public espagnol. L'objectif est de ramener le déficit global à 6% pour cette année. Quant à la règle d'or budgétaire réclamée par Paris et Berlin, les députés espagnols sont prêts à l'inscrire dans la Constitution. L'Espagne, après l'Allemagne, sera ainsi le premier pays de l'Eurogroupe à inscrire la règle d'or de l'équilibre budgétaire dans sa Constitution. La survie de la zone euro, c'est la bataille que mène de son côté la chancelière allemande Angela Merkel. Elle vient d'obtenir le soutien des députés de son camp, les Unions chrétiennes, pour l'élargissement des compétences du fameux Fonds de stabilité financière européen qui doit atteindre un volume de 440 milliards d'euros. Et du coup, la participation allemande passe à quelque 210 milliards. Elle représente donc pratiquement la moitié des garanties de ce fonds, ce qui n'est pas forcément du goût du contribuable. Après une forte contestation, les députés allemands ont obtenu qu'à l'avenir, toute nouvelle augmentation du fonds soit d'abord soumise au vote des députés, justement, du Bundestag, le Parlement allemand. Nous avons demandé à un eurodéputé vert, Sven Giegold, pourquoi la chancelière Angela Merkel avait autant de problèmes dans son camp.
En fait, Madame Merkel n'a pas un vrai problème parce qu'il y a une majorité très forte pro-européenne au Bundestag grâce à l'opposition. Le problème de Madame Merkel, c'est plutôt quelques députés conservatrices et libérales qui sont contre les aides aux États plutôt faibles.
C'est-à-dire qu'ils ont peur en fait d'être entraînés dans un puissant fonds.
Oui, et notamment, ils ne veulent pas payer et prendre des risques pour garantir d'autres pays de la zone euro parce que comme l'euro était introduite, c'était sur la base de l'idée que chaque pays est responsable de leurs dettes. Mais il faut voir qu'une partie du problème des pays, notamment au sud, c'est leur perte de compétitivité vers l'Allemagne. Et là, il y a deux raisons. Il y a un développement trop fort des salaires et des autres coûts. Et en même temps, il y a eu une réduction même des salaires en Allemagne. Et c'est pourquoi l'Allemagne, à notre avis, en tant que vert, doit aussi prendre responsabilité au niveau européen.
Alors, le ministre belge des Affaires européennes a critiqué, et c'est d'ailleurs le même son de cloche à Varsovie, la prétention, d'après lui, de Berlin et de Paris de régenter l'Europe. Alors, qu'en pensez-vous ?
À mon avis, il y a des vrais problèmes. Des pays qui sont moins grands, pour eux, la méthode communautaire avec le Conseil, le Parlement et la Commission, c'est aussi une garantie pour éviter une dominance de l'Allemagne et la France en Europe. Et c'est pourquoi je comprends les critiques.
Vous êtes député vert au Parlement européen. Alors, comment réagissez-vous aux critiques de certains députés du Bundestag qui craignent que les décisions sur l'Europe se fassent sans qu'ils soient consultés?
D'abord, le Bundestag a tous les droits d'être consulté. C'est aussi une obligation des parlementaires nationaux de s'occuper des questions européennes. Et moi, je suis dans un contact très étroit avec mes collègues verts au Bundestag, mais je vois dans notamment les grands partis, ils ont beaucoup de concurrence et tensions entre le niveau européen et le niveau national. À mon avis, il faut renforcer la coopération entre les parlements, mais il faut en même temps aussi accepter que l'Europe, qui est en train de se réunir, a besoin de plus de compétences du Parlement européen, parce que sinon, on va perdre le contrôle parlementaire totalement, et le vrai danger, c'est pas plus de l'Europe, mais l'Europe gérée par le sommet des chefs d'État.
L'eurodéputé vert allemand Sven Giegold sur l'élargissement du Fonds de stabilité financière.
A ben amar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había.
Plus de 35 ans après la mort de Francisco Franco, l'ombre du dictateur continue de planer sur l'Espagne. Dernier exemple en date, la publication d'un dictionnaire biographique dans lequel le caudillo, qui a dirigé le pays pendant près de 4 décennies, est présenté sous son meilleur profil. Le côté répressif de son régime est passé sous silence par les auteurs de l'ouvrage qui préfèrent mettre en avant sa valeur militaire. Un reportage pour nous éclairer avec Guillaume Bontou depuis Madrid.
50 tomes, 10 ans de travail pour plus de 44 000 biographies, 6 millions d'euros de subventions publiques, une présentation par le roi d'Espagne en personne qui en salue la rigueur et les techniques d'élaboration. Le dictionnaire biographique espagnol, premier ouvrage du genre dans la péninsule, a été lancé en grande pompe fin mai à Madrid. Plus de 2 mois plus tard, inutile de chercher un exemplaire, l'ouvrage n'a jamais été diffusé. La raison, une pluie de critiques qui s'est abattue sur l'Académie royale d'histoire, accusée de manipulation et de révisionnisme. Au centre de la polémique, l'article consacré à Francisco Franco, celui qui a dirigé l'Espagne d'une main de fer entre 1939 et 1975, est qualifié de chef d'État et de généralissime, mais jamais de dictateur. Rien d'anormal pour l'auteur de la biographie qui considère que Franco a mis sur pied un régime autoritaire, mais pas totalitaire, une définition qui scandalise Emilio Silva, petit-fils d'une victime du franquisme et président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique.
C'est une biographie extrêmement aimable pour un homme qui a violé les droits de l'homme à de nombreuses reprises dans le nord de l'Afrique, qui a commis des atrocités après le coup d'État du 18 juillet 1936 en Espagne et qui a continué jusqu'à la fin de sa vie, puisque 2 mois avant sa mort, il a fait fusiller 5 personnes à Madrid.
L'auteur de la biographie de Franco s'appelle Luis Suarez, un historien spécialiste de la période médiévale, ce qui ne lui a pas posé de problème pour écrire la biographie du caudillo. Il faut dire que Luis Suarez est proche de la Fondation Francisco Franco, qui défend l'œuvre du dictateur. Ángel Viñas, professeur d'histoire contemporaine et spécialiste de la guerre civile et du franquisme, ne mâche pas ses mots à l'heure de décrire le travail de Luis Suarez.
Il est un homme, je ne dirais pas à droite, il est un homme de l'extrême droite, hyper extrême droite, dont la biographie de Franco a été hautement contestée. J'ai dénoncé moi-même comme il a manipulé, menti. Il est un homme très contesté dans l'historiographie contemporaine. On l'a choisi comme auteur.
Ángel Viñas ne fait pas partie des 5000 écrivains qui ont participé à l'élaboration du dictionnaire biographique espagnol. Comme lui, d'autres historiens de premier plan, reconnus internationalement, n'ont pas été conviés. Aujourd'hui, tous dénoncent une œuvre pseudo-historique.
Quand nous, les historiens, nous nous sommes penchés un peu pour voir ce qu'il y a dans les entrées, nous avons constaté qu'il y a des erreurs factuelles commises par des amateurs. et je ne mâche pas mes mots. Hein. Il y a des entrées qui sont très bien, mais il y a des entrées qui sont la rigolade sur le point de vue historiographique. Des erreurs majeures, majuscules, qu'on ne tolérerait pas dans nos élèves à l'université.
Au-delà de l'article polémique sur le dictateur Franco, les historiens critiquent aussi une lecture partisane de l'histoire et un déséquilibre dans l'espace accordé à certains protagonistes de l'histoire récente, essentiellement en ce qui concerne la guerre civile. La biographie d'un général franquiste inconnu ou presque est deux fois plus longue que celle de Manuel Azaña, le dernier président de la République. Cette réécriture de l'histoire n'étonne pas Emilio Silva.
En Espagne, il y a un problème dans de nombreux domaines, notamment académiques et culturels, pour digérer le passé. Aujourd'hui, il y a un débat très fort, mais parce qu'il y a un vrai problème pour assumer la dureté de la dictature.
Malgré tout, le président de l'Association de la récupération de la mémoire historique assure que des progrès ont été faits.
Ce qui me paraît intéressant dans cette histoire, c'est que si cela avait eu lieu il y a quelques années, il n'y aurait pas eu de répercussions. Mais elle a eu lieu à un moment où il commence à y avoir un débat dans la société. Il y a un conflit par rapport au passé. Il y a 10 ans, cela aurait été publié sans problème.
L'Académie royale d'histoire, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, s'est engagée à réviser le dictionnaire biographique espagnol et rendra un rapport sur le sujet en septembre. Quant à la polémique sur la nature du régime, le propre Franco le définit lui-même dans un de ses premiers discours à la fin de la guerre. Il parle alors d'un État totalitaire qui harmonisera le fonctionnement du pays.
Un État totalitaire harmonisera en Espagne.
L'Espagne et son rapport complexe à l'histoire avec Guillaume Bontou depuis Madrid. Voilà, terminé pour cette émission réalisée avec le concours technique de Lévy Rechtenwald. Si vous avez des suggestions, voire des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS à 00 49 176 64 12 12 63. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse que vous connaissez bien, french@dw-world.de. Et en attendant, bonne suite de programmes.